son serviteur. Le Seigneur s'est mis dans les cieux, ses jugements font loi pour l'univers, et s'est toujours souvenu de son alliance, une parole édictée pour 1000 générations. Et celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais même si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les synagogues, les puissants et les autorités, ne vous tourmentez pas pour savoir comment vous défendre ou comment parler, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver pour notre premier week-end, pratiquement, ensemble. On va faire une année... On va enfourcher un cheval merveilleux pour courir, sur les plaines arides de cette terre, vers le paradis. Et aujourd'hui, comme on est très très impressionné, très unis en tout cas, à ce travail d'enfantement que le pape est en train de réaliser. Il vient d'enfanter, il a fait un travail colossal, ça fait 5-6 ans qu'il travaille sur cette encyclique, sur l'amour, sur la vérité et la splendeur de la vérité dans l'ordre de l'amour. Et en même temps, ils sont très unis, c'est quand même le 15e anniversaire. Le 15e anniversaire de son pontificat, je trouve que c'est quand même quelque chose de très, très impressionnant. Qu'il ait été intronisé comme pontife suprême au moment de la fête, au moment de la manifestation, à l'anniversaire de la révélation du cœur brûlant de Jésus, de l'amour brûlant de Jésus à Paray de Monial. Mais je me rappelle toujours ce que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu, ce que disait par exemple la petite Marthe Robin. Elle disait toujours, n'abandonnez jamais Paray de Monial. Quand elle dit n'abandonnez jamais Paray de Monial, elle parlait à tous ceux qui venaient la voir. Il ne faut jamais abandonner ce lieu où Jésus a manifesté qu'il avait un amour qui était brûlant, vivant, incendiaire. Le cœur de Jésus, le cœur de Jésus est ouvert. On le voit dans l'Apocalypse, par exemple, le livre de l'Apocalypse, un prologue, quand Saint Jean, d'un seul coup, est ravi dans un vol de l'esprit, est emporté en Dieu. Et il voit sept chandeliers d'or. Et au milieu d'elle, un homme, comme un fils d'homme. Le chandelier d'or, et son visage resplendit comme un plein soleil. Il a des cheveux comme de la laine blanche, blanche comme de la neige. Il a une robe blanche, une ceinture en or. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et il a un glaive à sérieux de tranchant. Et Jésus, au milieu de tout ça, montre et dit, ne crains pas. Ne crains pas. Parce que je suis le premier et le dernier. Et ceux qui sont percés, je les amènerai au Père, à celui qui est, qui était, qui vient. Et toute l'Apocalypse commence comme ça, le livre de la fin. Jésus montre que dans la résurrection, dans cet état de gloire dans lequel il est manifeste que c'est son cœur blessé qui est source d'attraction du monde entier et qui le sera de plus en plus. Et au fur et à mesure que l'abandon de Dieu, l'abandon de l'amour, l'oubli de la grâce se fera ressentir, au fur et à mesure, le cœur de Jésus imposera, pour ainsi dire, une attraction véhémente à ceux qui sont vers Dieu. Une attraction terrible à tous ceux qui sont vers Dieu. Attirés par cette blessure glorieuse du cœur de Jésus. Celui qu'ils ont transpercé, il les attirera. Et c'est à l'occasion, précisément, de cette révélation qui est quand même eschatologique, apocalyptique au sens du grec, c'est un dévoilement extraordinaire de tout ce qui avait été dévoilé jusque-là. L'appareil monial, c'est dans ce lieu, c'est ce lieu-là qu'on ne peut pas abandonner. Mais c'est le cœur de Jésus qu'il ne faut pas abandonner. Et c'est... dans cet anniversaire que le pape a été introduit. C'est pour ça que c'est quand même génial. Dans cet anniversaire que ce pape-là a été intronisé. Et que nous vivons avec lui pour ainsi dire cette grande guerre de l'amour, cette grande guerre eschatologique. On est content pour ça. Là, il a été à Denver. Chez les jeunes aux États-Unis. C'est toi que tu nous racontes ce soir tout ce qu'il vous a raconté à Denver. Je sais que tous ceux qui y ont été complètement étonnés. Complètement. Parce que il y a quelque chose de plus en plus qui se dégage du Saint-Père. De plus en plus, une pauvreté totale. De plus en plus. Et en même temps, de plus en plus, une vigueur dans le combat. Il y a une pauvreté, on s'en vient. Parce que le monde est un peu déroutant. S'il est déroutant pour nous, il me semble qu'il doit être très déroutant pour lui aussi. Alors, je crois qu'ici, dans une Eucharistie comme aujourd'hui, pour porter très, très fort le pape, ce qu'il a dit, par exemple, dans cette encyclique qui vient de sortir, c'est quelque chose de très grave, de très important. Je sais que si vous lisez cette encyclique, vous aurez du mal à la lire. Vous aurez du mal à comprendre ce qu'il y a dedans. Vous aurez du mal à rentrer dedans. Parce que c'est très difficile de rentrer dans l'enseignement du Saint-Père dès qu'il s'agit d'éthique. Pas obligé que le pape était professeur d'éthique. Professeur d'éthique. Un des plus grands professeurs du monde en éthique. Il ne faut jamais l'oublier, il avait une des plus grandes chaires du monde occidental en éthique. avant d'être pape. C'est pas la spécialité. Et donc, il sait très très bien quels sont les pièges. Bon, on a vu cet après-midi qu'il dénonce le piège de cette séparation de l'âme et du corps, le New Age, de la spiritualité médiumnique, du magnétisme, du métaphysique, de l'arbre séphirotique. Ça, c'est dénoncé. Oui, d'accord. Donc, faites très attention. On était au courant pour ce qui nous concernait. Oui, il dénonce pas que ça. Il dénonce aussi ce fait qu'on croit que si je me lance dans l'amour avec une sincérité absolue, c'est bien. Si c'est pas vrai. Celui qui se lance dans l'amour avec une sincérité absolue, ça n'est pas bien. La sincérité, c'est faux. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Les gens qui n'aiment pas ça, pourquoi? Pourquoi la sincérité c'est faux? Parce que la sincérité, c'est pas la vérité. Quelquefois on est très sincère, mais on se trompe. Et donc, vous donnez sincèrement à un amour éperdu. Mais c'est un amour faux. Si votre critère c'est la sincérité, faites très attention. Si vous basez l'amour sur votre sincérité subjective, ressenti, vous allez à la mort. Et vous allez tuer celui que vous aimez. Soi-disant. Deuxième affirmation. Troisième affirmation. C'est des affirmations qui sont évidentes. Pour la personne qui fait un peu d'expérience. Mais pour le monde d'aujourd'hui, on est ahuri. Ah bon ? Des affirmations d'évidence. Oui, l'amour, s'il est contemplatif. Il est lié à une liberté qui aime la vérité. À ce moment-là, c'est un amour humain. C'est un amour vrai. À ce moment-là, vous êtes dans votre vocation. À ce moment-là, vous ne détruisez pas le monde de l'humain, l'humanité, le prochain et la nature. Oui, c'est vrai. Mais comme me le disait un personnage très important dans l'Église, pas si longtemps. Ah oui, enfin le pape, il a un langage qui est difficile à gober. Il a un langage qui est finalement inacceptable. Il a un langage qui dit qu'en fond, la liberté de la personne qui choisit en pleine autonomie ce qu'elle fait, ben, c'est pas ça qui est le critère du bien. Alors que nous devons avoir des tas de recherches psychologiques en sciences humaines, scientifiques, etc., pour comprendre que la liberté existentialiste, cette liberté où l'homme s'assume dans ses choix, et ben, c'est ça qui fait qu'il délivre de ses problèmes et qu'il devient un homme de bien et de beau. Et donc, il met de côté toutes les découvertes qui ont été faites sur la personne humaine depuis des années, des dizaines d'années. Et il fait comme si tout ça n'avait pas existé. C'est inacceptable. Je dis pardon, c'est pas du tout inacceptable. Si toutes les découvertes qui ont été faites depuis quelques dizaines d'années, qui concernent précisément la liberté subjective, aboutissent à des erreurs, c'est normal qu'il dise que c'est une erreur. Il est là pour ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, cette personne qui me parlait? Personnage important, je reste en plus dans l'Église. Et là, je trouve longtemps qu'il y a une lutte quand même contre la vérité, contre l'amour, même dans notre petite Église de pauvres gens qui cherchent à faire de la bon Dieu. Et bien, par exemple, vous comprenez, les gens comme nous, quoi. On est pris dans un magma de problèmes, de courants contraires. Hein, vous naviguez, puis le courant est contraire. Et on baigne dans une culture de mort, comme il disait. Hein, lui-même le dit. Bon, et tu sais bien que faire le bien, on veut bien. Respecter les lois et les commandements de Dieu, on veut bien. Respecter l'amour dans la pureté, dans la vérité, dans la loyauté, dans la sainteté, on veut bien, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que le contexte n'est pas porteur.
Alors du coup, c'est vrai qu'on pose des actes pour faire un peu mieux, mais ce un peu mieux, par la loi de l'Église, est mal. Alors justement, toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant, c'est qu'en fonction du contexte, si je choisis de faire un acte qui est objectivement mauvais de la part de l'Église, de la part des commandements, si vous voulez, de la morale, quoi, lui, il dit dans son encyclique, ben non, ça reste mal. Alors que, au fond, non, c'est bien puisque je fais un progrès. Et il dit non, c'est mal. Ben alors, c'est inacceptable. Et comment est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on va faire si on ne comprend pas, en effet, que ce qu'il nous dit ici? Pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre qu'en effet, c'est mal? Parce que si on ne comprend pas que c'est mal, comment, s'il vous plaît, allons-nous avoir besoin d'un rédempteur? Si on essaie de faire des progrès par nos propres forces et avec la sincérité, et qu'on ne voit pas que c'est objectivement mal parce que l'Église nous rappelle ce que révèle la révélation et le bon Dieu et le Seigneur et l'Esprit-Saint, comment est-ce qu'on va dire, j'ai besoin de Jésus pour compléter et pour que ce qui était incomplet dans mon effort, dans mon don à l'amour, puisse être complété par la croix, la donation totalement infinie d'amour de Jésus sur la croix, qui prend tout ce qui est imparfait et limité en moi et tout ce que je fais est imparfait et limité dans l'homme de l'amour. Et comment est-ce que je vais m'associer à Christ, au Messie d'Israël, et au roi des rois qui est assis à la droite du Père, si je ne comprends pas que c'est effectivement quelque chose de destructeur? Je ne fais pas que des choses destructrices, mais lorsque c'est objectivement destructeur, je ne peux pas m'en sortir sans rédempteur. Donc le pape a parfaitement raison. Et c'est dommage que des hommes d'église ne comprennent pas ça. Nous essayons de suivre Jésus sur la terre, et pour essayer de suivre Jésus sur la terre, il faut aimer infiniment le cœur de Jésus qui nous trouve dans la résurrection. On ne peut pas séparer les deux. Il faut savoir que Jésus veut qu'on soit des saints et que lui seul. On ne peut pas séparer les deux. C'est pour ça qu'il a fait une encyclique, il a fait, pour dire, la vérité resplendit dans un amour victorieux de tout. Et si j'abandonne ce fait que la morale, si vous voulez, on l'a vu toute l'année dernière, comment la morale, c'est pas la petite morale, mais que la morale, c'est comment faire pour être un saint, pour être un saint de cœur, pour avoir une affectivité saine, transparente, libre, zélée, fervente. Mais c'est très important. Parce que si on ne fait pas ça, comment le Christ rédempteur peut-il compléter à l'infini dans une gloire éternelle? Comment? C'est pourquoi on ne peut pas accepter une compromission entre l'Esprit Saint et l'Esprit du monde. Et c'est ce qui est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le Christ et l'Esprit Saint qui animent l'enseignement apostolique parle par la bouche du Pontife suprême de Jésus sur la terre, et bien forcément, il indique que c'est impossible. De mettre une compromission quelconque entre Bélial et l'Esprit-Saint. C'est pour ça qu'il faut accepter ce qu'il dit. Mais quand je dis qu'il faut accepter ce qu'il dit, il faut l'accepter pour nous. Ça veut dire que dans le domaine des fautes, de la moralité, dans le domaine des commandements de Dieu, on va supplier Jésus pour être avec, dans cette guerre, sur le cheval blanc de la grâce. On va supplier Jésus de nous faire rentrer dans ce désir de nous convertir complètement dans toutes nos faiblesses, ou dans notre faiblesse principale, si c'est la colère,
je change aujourd'hui et c'est terminé pour la colère. Et si c'est la luxure, c'est terminé aujourd'hui, c'est fini, rentre dans la chasteté. Et si c'est l'avarice, c'est fini. Je rentre dans la gratuité. Je rentre, pas dans la prodigalité, mais je rentre dans la justesse, d'un rapport avec les richesses que j'ai. Et si c'est la gourmandise, bon, bah, je rentre et je décide que je vais un petit peu. C'est moi. Je vais passer, au lieu de continuer de passer 90 à 95, 90, 98, 90, là, hop, on rétrograde. Voilà. Vous voyez, ça, on va décider ça, chacun d'entre nous, notre manière de dire oui. Jésus, à travers son corps mystique, qui se réfugie dans le cœur de Jésus, brûlant dans l'amour et dans la gloire. Notre manière concrète, toutes les autres manières sont fausses. On va rentrer dans les commandements. Et chacun d'entre nous, la voyez, pendant la communion, on sait très bien, c'est pas la peine de faire un examen de conscience de 8 heures pour savoir quel est le truc qu'il faut. Sur lequel il faut se convertir. Hein. Tout le monde, chacun d'entre vous, savez votre truc. On se convertit dessus. Celui de péché capitaux sur lequel c'est décidé, c'est la guerre maintenant. Je fais la guerre à ça. Et j'aurai la victoire. J'obtiens tout de suite la victoire. Elle est acquise puisque je communie et c'est Jésus qui fait le reste. On le décide, vous êtes d'accord. À ce moment-là, on fait une troupe d'élite, c'est sympathique, des paras du Saint-Esprit. Voilà, on aura gagné une Eucharistie victorieuse. Et on aura mis une phalange au service de la guerre, c'est magique. La guerre contre cette civilisation de mort.